Il est 7h41 sur France Culture. On va parler de la SNCF et il est beaucoup question de la bataille du rail aujourd'hui. Alors, je vous propose un extrait de ce film, le film de René Clément de
1946.
Idée. Camarades, il y a trop de sabotage. Il est comme ça. Nous travaillons tous pour la même cause.
Lauter.
Il dit comme ça. Nous vous tendons la main. Mais si vous nous tendez le poing, on vous casse à la gueule.
7h42 sur France Culture et nous allons parler maintenant de l'autre bataille du rail, celle qui est en train de se profiler 10 jours après avoir reçu le rapport sur l'avenir du transport ferroviaire rédigé par Jean-Cyril Spinetta. Le Premier ministre Édouard Philippe annonçait lundi souhaiter le recours aux ordonnances pour faire adopter avant l'été une réforme de la SNCF. Cette dernière conduit entre autres à la fin progressive du statut de cheminot. Édouard Philippe légitime son recours aux ordonnances comme un moyen de faire face à l'urgence pour préparer l'ouverture à la concurrence qui doit intervenir en décembre 2019 pour le TER et en décembre 2020 pour le TGV. Alors qu'hier, la SNCF publiait ses bons résultats de 2017 avec un bénéfice net multiplié par 2,3 et un chiffre d'affaires qui a progressé, les syndicats ont de leur côté appelé à la grève. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair dans un dossier qui est quand même d'une grande complexité. Bonjour Marc Fressoz. Vous êtes journaliste spécialiste des transports, vous écrivez pour Contexte, un site d'information en ligne spécialisé dans les politiques publiques et vous êtes l'auteur de FGV, Faillite à grande vitesse, paru en 2017 aux éditions Le Cherche Midi. Ce rapport Spinetta, il donne un certain nombre de repères. On peut évidemment en contester, peut-être allez-vous le faire, ses conclusions, mais il livre quand même énormément d'informations sur l'état actuel de la SNCF. Et tout d'abord, je suis frappé par le contraste entre ce constat fait par le rapport Spinetta et la manière dont le débat public s'en est emparé, parce que le premier constat que l'on peut faire à la lecture de ce rapport, c'est malgré tout les gros problèmes du fret. Or, on parle très peu du fret.
On parle très peu du fret parce que c'est la honte nationale, c'est la honte des
politiques. Une autre honte alors.
C'est la honte des politiques publiques, c'est-à-dire que c'est un échec patent. C'est-à-dire que le fret ferroviaire est en train de disparaître. Il est en train de disparaître parce que il concentre un petit peu toutes les rigidités, enfin tous les problèmes de la SNCF. C'est-à-dire que si on ne fait rien aujourd'hui, le reste de la SNCF sera comme comme fret SNCF aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y a eu une tentative de réforme. Il y avait des discussions entre la direction de la SNCF et les syndicats pour convenir qu'il fallait assouplir la façon de travailler. Et il y avait un millier de conducteurs qui étaient volontaires pour avoir des amplitudes horaires un peu plus importantes, alors contre une rémunération également plus importante, et tout ça dans le cadre du statut. Et il y a eu une grève à l'époque, avec Sud Rail et la CGT, et pour complaire au gouvernement, éviter que ça prenne trop d'ampleur, le patron de la SNCF, alors à l'époque Guillaume Pépi déjà, avait retiré cette réforme, cet assouplissement. Et depuis le fret n'a cessé de décliner malgré toutes les grandes déclarations. Hein, vous vous souvenez du Grenelle de l'environnement avec Borloo.
Bah oui, parce que c'est évidemment incompréhensible. C'est-à-dire, on voit le transport routier progresser de manière sensible, voilà. Et le fret se casser la figure.
Voilà. Et puis, il faut savoir aussi que le fret a été ouvert à la concurrence en 2005 ou 2006 et que cette concurrence s'est faite sans du tout préparation sociale. C'est-à-dire qu'il y a eu un évitement de la part de la direction de la SNCF et de la part des syndicats qui se sont dit « Bah écoutez, si le gouvernement veut ouvrir, parce que c'était l'Europe hein, qui imposait l'ouverture, eh bien qui l'ouvre. » Et du coup, il n'y a pas eu de discussion au sein de la branche ferroviaire. Et si bien qu'il y a des concurrents de la SNCF qui sont apparus sur le marché, notamment la Deutsche Bahn, qui a fait des trains avec des conditions différentes que celles des cheminots. Et c'est seulement sous Hollande qu'on a dit, bah écoutez, il faut faire une règle du jeu commune, il faut qu'il y ait une convention collective commune. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait dans cette convention collective? Comme on ne pouvait pas toucher à la SNCF, on a mis au même niveau niveau d'organisation du travail et de jours de congé, les opérateurs privés par rapport aux cheminots. Et le résultat, c'est que comme le trafic de fret ferroviaire est concurrencé par la route, eh bien, le fret ferroviaire continue de se casser la figure.
Seconde question, qui est une question simple et qui appelle une réponse extrêmement compliquée, c'est le coût de la SNCF. Et alors là, j'avoue que lorsqu'on lit à la fois le rapport Spinetta, le canard enchaîné de ce matin, j'y reviendrai, eh bien, on s'aperçoit que les choses sont très complexes. Alors d'abord, il faut rappeler, Marc Fressoz, que la SNCF est en réalité une entité séparée en deux et que ceci donne beaucoup de soucis comptables pour essayer d'évaluer combien coûte véritablement le transport ferroviaire en France.
Voilà. Alors, elle est séparée en deux, mais depuis la réforme qui a été faite sous Hollande, elle a été quand même... On a réuni toute l'infrastructure, mais enfin, globalement, il y a deux choses. Il y a l'entité qui exploite les trains, c'est SNCF Mobilité, enfin, ce qu'on appelait la SNCF avant, et puis l'entité qui gère les rails, qui exploite... qui faisait construire des lignes TGV, maintenant on n'en construit plus parce que c'est un fardeau, enfin ça crée une dette épouvantable. Alors aujourd'hui, cette entité, elle est chargée de moderniser, enfin de maintenir le réseau en l'état. Et comme ça coûte des milliards d'euros chaque année, eh bien, on a tendance à vouloir fermer des petites lignes, ou à faire payer les régions, transférer en fait le fardeau des petites lignes dont on ne sait pas quoi faire et dont l'État n'ose pas prendre la décision de les fermer. Eh bien, on dit aux régions, maintenant ça va être de votre responsabilité les petites lignes. Si vous avez les moyens de les financer, très bien, mais si vous n'avez pas, nous on peut rien faire, donc ce sera vous qui avez baisserait le pouce en disant cette ligne elle est fermée.
Et alors du coup, on a une situation qui est contrastée, comme vous le dites, Marc Fressoz, parce que aujourd'hui, on a donc une SNCF Mobilité en réalité, qui est bénéficiaire. Mais d'un autre côté, on a des infrastructures qui, elles, représentent une dette globale de 46 milliards d'euros, avec un endettement qui a progressé de manière considérable, puisque depuis 2010, il a progressé de 10 milliards d'euros. Et donc, il faut que vous nous expliquiez comment on aboutit à ce résultat.
Voilà. Effectivement, il y a sur les comptes, c'est assez compliqué d'y voir clair parce que la SNCF, c'est une sorte de magma. Et en fait, au lieu qu'il y ait deux entités, il y en a même trois parce qu'il y a un établissement public qui chapeaute les deux entités dont on a parlé. Et en fait, c'est très simple. SNCF Réseau donc gère les voies et on a demandé à SNCF Réseau de construire des lignes à grande vitesse sur ces fonds. Donc, il s'est endetté. Et de l'autre côté, on demande à la SNCF qui fait rouler des trains, de payer des péages pour permettre d'entretenir les trains. Les voies,
rails.
Pardon. Voilà, les rails. Or, si on voulait couvrir le coût d'entretien des voies, qui sont faites par des cheminots, dont les salaires augmentent régulièrement chaque année, eh bien, il faudrait augmenter les péages encore plus qu'aujourd'hui. Et si on augmente les péages encore plus, eh bien, on fait partir les gens du train et on les pousse dans l'avion, on les pousse sur les autocars, on les pousse sur la voiture individuelle. Donc, il y a un équilibre qui est impossible à trouver. Et la dette, donc clairement la dette de réseau, elle vient du fait qu'on a demandé à la SNCF de payer des lignes à grande vitesse que l'État aurait dû payer. Mais en plus, il y a un gonflement parce que les frais de fonctionnement, ils augmentent chaque année à cause du fameux statut cheminot. Alors, c'est difficile à entendre.
On a donc d'un côté une dette qui pèse. Alors, elle pèse tout simplement parce qu'elle pompe une partie des bénéfices de la SNCF et puis aussi, elle exige un financement public. D'un autre côté, ça nous permet de bénéficier d'un train qui est très peu cher puisque c'est de l'ordre de 7 euros les 100 km. Alors qu'au Danemark, on est aux environs de 30 euros les 100 km et probablement plus en Allemagne et en Italie. Ce qui veut dire que finalement, lorsque le Premier ministre dit que ça coûte cher aux usagers, il n'a pas complètement raison.
Ah si, quand même. Alors la perception du prix, elle est très compliquée.
7 euros 100 km contre 30 euros au Danemark. C'est le rapport Spinetta, j'invente rien.
Mais c'est compliqué parce que vous pouvez être client d'un TGV et voyager avec une place que vous avez payé 40 euros en étant à côté de quelqu'un qui a payé à 140 euros.
Mais il y a une moyenne.
Il y a une moyenne, mais la moyenne, le client, il ne la fait pas. Il voit ce qu'il paye. Et en fait, ce que disait Édouard Philippe là dans son discours quand il a annoncé la réforme, il a dit que les gens prennent ou pas le train, ils payent le train de plus en plus cher, et il faisait référence à la dette qui augmente de 2 milliards chaque année. Et au fait aussi que le ressenti des gens, c'est qu'ils payent cher, mais qu'il y a toujours des pépins. Ils partent en vacances à Noël, cet été, le réseau lâche à Montparnasse. Donc les gens sont bloqués. Donc il y a un coût psychologique, une facture psychologique qui est lourde, en plus de la facture...
En tout cas, il y a la sensation, effectivement, qu'il y a des défaillances. Alors, toujours si on continue à analyser les coûts, parce que ce que dit le rapport Spinetta, c'est que finalement, les lignes qui rassemblent aujourd'hui 2% du trafic, donc vraiment les toutes petites lignes, sont celles qui, aujourd'hui, supposent des investissements de 2 milliards d'euros par an, parce que bon, c'est un système de réseau, et ce système de réseau, il a des coûts fixes, c'est-à-dire que des rails, que les rails soient passants ou pas
c'est
passants,
ça, ouais.
Bon, plus ils sont passants, plus il y a des frais, mais là, malgré tout, il y a un minimum de frais, et donc du coup, on a la sensation que sur le plan économique, je ne parle pas du plan politique, mais sur le plan économique, ces petites lignes, elles sont beaucoup trop onéreuses.
Elles sont beaucoup trop onéreuses. En fait, il y a un équilibre. C'est si vous entretenez les rails régulièrement, le coût global il est relativement léger. Si vous avez délaissé l'entretien quotidien de ces petites lignes, au bout d'un moment, elles se dégradent tellement que soit vous mettez des milliards, soit vous réduisez la vitesse pour éviter qu'il y ait des accidents, comme Brétigny. Et vous laissez au fil de l'eau le réseau se dégrader, puis à un moment donné vous dites soit je ferme parce que ça coûte beaucoup trop cher, ou soit je mets des milliards parce que je tiens à ces lignes, politiquement c'est important, en termes d'aménagement du territoire c'est vital, et du coup il y a cette question là qui se pose pour les régions, là on revient aux régions qui
et sont oui parce
les...
que alors donc on apprend ça dans le Canard enchaîné d'aujourd'hui, et en fait on apprend tout simplement que la SNCF taxe les régions, c'est-à-dire que en fait, ces clients, ce ne sont pas tant les clients finaux, vous et moi, qui prennent le train en région, c'est tout simplement le fait que la SNCF va, alors le Canard enchaîné le dit avec son vocabulaire, racketter les régions en faisant toute une série de frais, si bien que par exemple, la région Picardie, qui a décidé de retirer à la SNCF la gestion de la ligne Saint-Quentin-Origny pour la confier à Socorail, autrement dit une société privée, eh bien la facture est tombé de 600 000 euros à 345 000 euros, pas tellement à cause des cheminots ou de je ne sais qui coûteraient cher, mais tout simplement parce que la SNCF a décidé de marger au détriment des régions.
Oui, alors ça, l'article il fait référence à l'entretien des lignes. Effectivement, quand on parle de racket, le racket, c'est quand on n'a pas le choix. Et les régions, elles n'ont pas le choix, puisque sous le gouvernement Jospin, il y a eu la décentralisation du TER. On a décidé que pour relancer le transport régional, on confiait leur gestion aux régions. En fait, ça consistait à transférer la facture, à faire payer la facture aux élus régionaux, qui au début étaient très contents parce qu'ils pouvaient mettre le nom de leur région sur les trains. Ils ont acheté des nouveaux trains.
Alors, mettre le nom de votre région sur un train, ça coûte 100 000 euros, le pelliculage d'un train aux couleurs de la région.
Oui, c'est...
Ce qui montre là aussi que la SNCF a des bénéfices substantiels sur ces opérations de publicité qu'on voit sur les trains régionaux.
Et ça, c'est pourquoi ? C'est parce que il faut payer une organisation qui est lourde, une organisation avec des agents, où il y a le GVT, c'est le glissement, vieillissement, je ne sais plus quoi, mais c'est spécifique à la SNCF, c'est-à-dire que tous les ans, il y a les salaires augmentent, les grades des agents augmentent automatiquement. C'est-à-dire que quand vous rentrez à la SNCF, vous savez, si vous êtes au statut cheminot, vous savez qu'à la fin de votre carrière, vous serez à tel grade, avec tel salaire, et donc si vous ne faites pas d'erreur, si vous ne prenez pas de risque, vous allez fonctionner comme ça. Et donc, tout ça, c'est un coût. Et la SNCF trouve tous les moyens pour faire payer les autres.
Mais alors, Marc Frissot, il y a quand même quelque chose qui mérite d'être clarifié. Donc, le Premier ministre a dit qu'il ne toucherait pas aux petites lignes, contrairement aux préconisations du rapport Spinetta. Du coup, on a soupçonné le gouvernement d'avoir, en quelque sorte, utilisé ce chiffon rouge pour l'écarter, parce que, évidemment, politiquement, ça serait très compliqué. Mais il y a déjà beaucoup de lignes qui ont été supprimées. On le voit là aussi dans le rapport Spinetta, c'est quand même considérable. Depuis 1950, la France perd des petites lignes. Et on a également tous l'habitude de prendre des petites lignes qui sont en fait desservies par autocar et plus du tout par train. Alors, en quoi y aurait-il là aussi des nouveautés ?
Ben, les nouveautés, c'est que la circulation des trains, enfin, la tendance à se concentrer sur les grands axes, sur soit Paris-Lyon, Paris-Lille, Paris-Bordeaux, pour les TGV, et puis pour les TER, c'est de faire de la desserte massive, enfin de massifier les dessertes entre les grandes métropoles, par exemple entre Lyon et Grenoble, entre Lyon et Saint-Étienne, et que du coup, pour des raisons économiques, voilà, il y a cette concentration-là. Et alors, c'est marrant parce que déjà en 1995, quand il y a eu la grande grève, l'un des ressorts de la grande grève des cheminots, c'était la fin du statut cheminot et puis aussi la fermeture de petites lignes pour des raisons économiques. Enfin, Bercy avait dit...
C'est effectivement quelque chose de terrible, la fermeture de petites lignes.
Et là, ça continue, oui. Mais alors, il y a un truc très intéressant, c'est qu'il y a un film à succès qui s'appelle « Les Tuches 3 ». Et les Tuches 3, ce qui est drôle, c'est que ça montre que, en fait, les politiques publiques, elles se heurtent à des mythes nationaux, à un inconscient collectif. Parce que dans ce film, donc c'est Jeff Tuche qui préside, enfin, qui
est élu. C'est une famille pour exposer aux auditeurs, voilà. C'est une famille de Français moyens, voilà. Qui arrive à l'Élysée.
Voilà, qui arrive à l'Élysée. Et en fait, lui, il est maire de son village et il constate que le TGV passe dans son village et il pense qu'il va s'arrêter, qu'il va desservir sa gare. Et il voit que le TGV lui passe devant. Et qu'il ne dessert pas son village. Et donc, c'est un désaveu en termes d'égalité du citoyen devant le train. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, il décide de faire campagne pour l'Élysée sur le truc un TGV dans chaque village. Et à la fin, il se fait élire. Alors, c'est rocambolesque, mais il se fait élire sur ce programme-là. Donc, ça montre qu'il y a un attachement viscéral des élus, des citoyens, aux petites lignes. Et en même temps, les élus régionaux qui gèrent le TER, ils sont confrontés à une équation terrible, c'est que la facture du TER, enfin du train augmente, et du coup, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire en loose day ? Eh bien, ils ferment des lignes et ils mettent ces dessertes sur autocar.
Alors, par ailleurs, lorsqu'on analyse, toujours grâce au rapport Spinetta, le coût de la SNCF, on se rend compte notamment que le renchérissement de la dette, il a été terriblement impacté par les lignes à grande vitesse, et notamment par la dernière ligne à grande vitesse qui a été ouverte, celle qui dessert
Bordeaux-Toulouse.
Bordeaux.
Ouais. C'est Tour Bordeaux, effectivement, oui. C'est le résultat du syndrome Tuche. Et celui à l'époque qui a incarné le syndrome Tuche, c'était Nicolas Sarkozy, puisqu'il est arrivé à l'Élysée et il a dit avant moi, on faisait une ligne TGV tous les 10 ans, je vais en faire 4 à la fois. Et donc, sous son quinquennat, on a construit 4 lignes à grande vitesse à la fois. Et comme il n'y avait pas d'argent dans les caisses, on a utilisé pour 3 d'entre elles un artifice complètement irresponsable qui sont les partenariats public-privé. C'est-à-dire qu'on confie en concession à Bouygues, Vinci et Fage des lignes à grande vitesse comme des autoroutes. Et c'est eux qui empochent le péage des trains et qui en fait, c'est une forme de raquette là aussi, parce que la SNCF est obligée de payer des péages très élevés qu'elle n'a pas négociés. Et en fait, Pépi a expliqué hier que le Bordeaux-Toulouse c'était 70 millions de déficit. Tour-Bordeaux, pardon, c'était 70 millions de déficit la première année.
Et ce que l'on découvre dans le rapport Spinetta, c'est que ça a représenté 3 milliards de renchérissement de la dette pour cette seule ligne, ce qui évidemment est quelque chose qui pèse lourd dans la balance. Marc Fressoze, vous êtes journaliste spécialiste des transports, on vous retrouve aux environs de 8h20, vous serez rejoint par Léla de Comarmont qui, elle, est spécialisée dans les questions sociales, qui travaille pour le quotidien Les Échos, et on verra cette fois-ci le volet social, puisque finalement, eh bien, ce rapport Spinetta, il débouche de manière un peu paradoxale, on va le voir, sur la question du statut, et c'est cela qui aujourd'hui pose problème. En attendant, il est 8h sur France Culture. Bienvenue si vous nous rejoignez.